Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir, 19h, ça se dispute, vous les connaissez, vous les attendez, Julien Drey, bonsoir.
Bonsoir.
En face de vous ce soir, Gilles-William Golnadel, bonsoir. Bonsoir. La parole à vous dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
Au Parti Socialiste, les modalités sont fixées. À Marseille, les délégués du Congrès ont entériné la victoire d'Olivier Faure comme premier secrétaire. Un accord avec son rival Nicolas Maillé-Rossignol met ainsi un terme à plusieurs jours de contestation interne. Le maire de Rouen devient quant à lui premier secrétaire délégué, au même titre que son homologue de Nantes, Johanna Roland. Nouveauté à compter du 1er février, les arrêts de travail dérogatoires sans jour de carence pour les personnes positives au Covid-19 ne seront plus possibles. Par ailleurs, l'isolement systématique des cas positifs et la réalisation d'un test au bout de 2 jours pour les cas contacts ne seront plus requis, mais restent fortement recommandés. À l'est de l'Ukraine, au moins 3 morts et 14 blessés dans une frappe russe sur la ville de Konstantinivka. Un quartier résidentiel a été touché par des lance-roquettes multiples. Des immeubles d'habitation ont été détruits, des voitures carbonisées. Kiev a affirmé cette semaine que les troupes russes avaient intensifié leurs attaques à l'est du pays.
Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera à 19h30. La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le ministre.
Vous n'êtes pas habitué à comme ça.
Ah, mais c'est le ministre de l'Intérieur, je vais piquer ces mots. On essaye. C'est le ministre de l'Intérieur qui le dit dans les colonnes du Parisien. On va y revenir dans un instant pour voir un petit peu si vous rejoignez ces propos. Mais avant, je vous propose tout de même de revenir sur... Jérusalem S qui a été frappé 2 fois en moins de 24 heures.
Déclaration de M. Darmanin. Oui.
Effectivement, 2 attaques sanglantes. La première, elle a eu lieu hier soir près d'une synagogue où 7 personnes ont été tuées. Un Palestinien de 21 ans s'est rendu à proximité d'une synagogue du quartier de Neve Yaakov pendant les prières du Shabbat et s'est mis à tirer sur les personnes présentes. La deuxième attaque, c'était ce matin à proximité d'un site archéologique de la cité de David. Un père de 47 ans, son fils de 23 ans, était blessé. L'assaillant a été neutralisé et blessé et il n'avait que 13 ans. C'est bien évidemment le choc partout et à Jérusalem en particulier. Écoutez.
Vous pouvez sortir de chez vous et soudain, quelqu'un vient vous poignarder ou vous tirer dessus. Vous ne savez pas vraiment quoi faire. C'est comme ça à Jérusalem. C'est effrayant, tout simplement effrayant.
C'est très difficile de faire quoi que ce soit contre ce genre d'attaque. Des actes isolés perpétrés par des Arabes israéliens qui sont des nôtres. J'espère que ce gouvernement saura quoi faire et qu'il ne laissera pas les Palestiniens se réjouir comme ils l'ont fait hier. L'assaillant a perpétré un massacre ici. Il a fait ce qu'il voulait sans que personne ne l'arrête.
Alors Gilles William, une émotion bien évidemment très forte, des réactions internationales qui ont été nombreuses. L'une des pires attaques subies par Israël ces dernières années.
Oui, bon, écoutez, moi je suis partagé entre la tristesse et la colère. Permettez-moi d'être politique. Hein. C'est un drame épouvantable, mais nous y sommes un peu habitués. Moi, je connais bien Israël, donc on y est habitué. Mais ce que je déplore avant tout, c'est le sens critique à sens unique, tel qu'on l'entend dans certains médias français ou dans certains politiques français, vraiment. Parce qu'il faut bien comprendre, ce qui se passe là, c'est la haine à l'état brut. C'est l'islamisme à l'état brut. C'est la haine antisémite à l'état brut. Je ne dis pas que les Israéliens sont indemnes de toute faute politique. Hein. Ce n'est pas du tout mon point de vue. Mais sachez que les Arabes de Palestine auraient depuis longtemps eu leur État s'ils avaient accepté une parcelle d'identité juive sur une partie de la Palestine. Mais ils la considèrent. Ils ne sont pas intéressés par ça. Ils la considèrent comme musulmane et comme arabe. C'est un islamo-nationalisme, le mouvement palestinien. Et il y a une éducation telle à la haine que les gens se réjouissent. En Israël, jamais on se réjouirait d'avoir abattu, comme ça s'est passé, parce qu'on fait une équivalence incroyable, la veille, c'était 9 terroristes du djihad islamique qui avaient été tués les armes à la main. Ça n'a rien à voir avec 9...
En réponse juifs. À des tirs de roquettes, effectivement.
Oui, ça n'a rien à voir avec 9 juifs désarmés qui vont à la synagogue, si vous voulez. Donc, pardon, mais la haine se répand également en France. Et je crains, malheureusement, ce n'est pas une crainte, je l'ai dit à plusieurs reprises, malheureusement, il y a des gens en France qui versent de l'huile sur le feu. C'est arrivé, ça peut encore arriver.
Justement, il y a eu des réactions politiques, Julien Drey, on a vu celle d'Emmanuel Macron, il y a eu Éric Ciotti, Anne Hidalgo, Marine Le Pen qui ont réagi. Du côté de LFI, on a regardé le compte, il n'y a pas eu de réaction après cette attaque terroriste. Est-ce que ça participe justement à cette haine qui pourrait se déverser également en France ?
Moi, je ne suis pas le contempteur ou le défenseur de la France insoumise. Hein. Ils débrouillent avec eux-mêmes. Mmh. Bon, ils font assez de bruit et de chahut pour s'exprimer. Moi, ce que je veux dire d'abord, c'est que, évidemment, c'est à la fois l'émotion, la solidarité... Et aussi une forme d'horreur parce que effectivement on n'est pas dans une comptabilité morbide et c'est ça le danger, la comptabilité morbide, c'est ils en ont descendu 9 de l'un côté donc on va en descendre 7 de l'autre, finalement on renvoie tout le monde dos à dos. Non, on voit pas tout le monde dos à dos. Je m'excuse de le dire, je ne renvoie pas tout le monde dos à dos. Je condamne la mort d'un homme est toujours une catastrophe, mais je ne les renvoie pas dos à dos parce que dans l'histoire récente sur ces 20 dernières années, le mouvement palestinien a évolué. Et les forces qui ont pris la direction du mouvement palestinien, pas le peuple palestinien, qui souvent d'ailleurs, je pense à Gaza, est pris en otage par le Hamas ou des choses comme ça. Les deux directions qui sont le djihad islamique et le Hamas et le Hezbollah un petit peu, aujourd'hui, on ne sont pas dans une logique d'essayer d'obtenir l'ouverture de négociations. Ils font tout d'ailleurs pour détruire l'autorité palestinienne qui est à Ramallah. Ils ne veulent pas ça, ils veulent le contraire. C'est quelque chose qui est terrible parce que c'est une guerre, c'est le terrorisme aveugle qui va conduire ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire, ce qu'ils souhaitent, c'est que Israël devienne une sorte d'agresseur absolu, détestable, parce que la haine va suicider. Je veux dire, imaginez, vous êtes un Israélien, vous allez à Shabbat, le jour où on célèbre, le jour où on célèbre l'Holocauste, c'est-à-dire 7 millions de Juifs qui sont parvenus en fumée, pas 6, 7. Maintenant, les chiffres ont été précisés avec la Shoah par balle. Voilà, le jour où on célèbre ça, vous allez donc, parce que c'est un moment particulier, vous allez avec vos enfants, notamment, parce que c'est ça qui s'est passé, et quelqu'un vient et tire aveuglément. Bah, après, vous savez, c'est un miracle. Hein. Je vais vous le dire honnêtement, c'est un miracle. J'ai vécu ça, moi, quand j'étais gosse en Algérie. Hein. Après, vous avez des lynchages hein, derrière. Parce que la population... Ouais. Malheureusement, j'avais 4 ans, 5 ans, et mon père, à plusieurs reprises, me prenait, me disait non, viens pas, parce qu'il y avait des grenades dans des cafés. Et après, malheureusement, ce qui se passait, c'est que le premier pauvre arabe qui passait par là se faisait lyncher par la colère des gens. Et ça, ceux qui fomentent ces attentats-là, c'est ça qu'ils veulent. C'est à ça qu'ils veulent arriver. Voilà. Et c'est en ce sens-là que c'est insupportable. Et c'est en ce sens-là qu'on ne peut pas dire, mais non, c'est un combat légitime, même si non. Le combat légitime, ça serait effectivement aujourd'hui un combat politique pour discuter. Mais ils ne veulent pas de ça. Vous savez, les Français ne le savent pas. Mais il y avait un accord de paix qui avait été rédigé, qui avait été signé, qui était prêt. Voilà. Il y avait un accord de paix, il existait avec la naissance d'un État palestinien. Et Yasser Arafat a saboté cet accord. Il a fait des attentats exprès pour que la gauche qui avait mené cet attentat-là, qui avait mené cet accord, ne puisse pas aboutir. Donc, pourquoi ? Parce qu'il voulait radicaliser. Je peux vous dire, il me l'a dit en face. J'étais jeune député, j'allais le voir, il m'a dit, on parlait, il m'a dit, mais non, vous ne comprenez rien, jeune député, jeune monsieur, le monde arabe est derrière moi, et nous gagnerons. Et moi, je le regardais, je disais, ouais, je ne suis pas sûr du tout. Voilà.
Et ce qui est frappant aussi, c'est le jeune âge des terroristes, 21 ans, 13 ans, hein, ce matin. Est-ce que ça montre finalement une poussée de l'idéologie islamiste ou pas ?
Non, mais ça montre, je vous le disais tout à l'heure, l'éducation à la haine. On leur donne un fusil à 8 ans dans les mains pour défiler. Donc, il est normal qu'à 13 ans, il ait envie de tirer. Non, mais je suis infiniment plus sévère que Julien Drey par rapport à la France insoumise. Je trouve assez répugnant que la veille, l'ensemble des députés de la France insoumise pleuraient sur le sort des 9 membres du djihad islamique qui ont été tués les armes à la main et qu'il n'ait pas versé une seule larme sur les 7 juifs sans armes tués devant la synagogue. Et ce n'est pas uniquement une question morale. Ça fait longtemps que je sais que l'islamo-gauchisme, c'est une sorte de déviation morale et mentale. C'est que, par rapport à leur clientèle dans les banlieues, ça fait des dégâts. Ça en a déjà fait. Ces gens-là, je dis que ces gens-là, seront responsables de ce qui peut arriver demain dans les banlieues. La réalité est là. Et je veux dire aussi qu'il y a toute une partie de la presse que vraiment j'ai du mal à lire. Quand je vois que Le Monde traite le djihad islamique de formation militaire alors qu'il est classé terroriste, il est classé comme mouvement terroriste international, même que s'agissant des juifs de Jérusalem, il les nomme des colons, pardon, mais moi j'accepte pas pour Jérusalem, le terme de colon à Jérusalem. Parce que si on joue avec les mots et avec le terme de colon, alors je considère qu'il y a plus de colons dans le 9-3 que de juifs colons à Jérusalem.
Julien, ouais.
Non, mais je pense qu'il y a évidemment une lecture de ce conflit qui est totalement... qui en Europe, et notamment en France, est totalement absurde.
Il s'est importé en France, ce conflit, justement ?
Non, je ne crois pas. On a réussi jusqu'à maintenant. Alors... nous, on a réussi, justement, les uns les autres, en se battant, en faisant pas d'amalgame, en refusant, justement. Là, vous savez, il y a beaucoup de musulmans français, il y a beaucoup de jeunes qui ne se reconnaissent pas dans ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, il y a une partie de la population palestinienne qui ne se reconnaît pas, qui voudrait bien vivre en paix. Qui voudrait bien, quand vous discutez, en Israël, vous avez beaucoup de... D'abord, vous avez déjà une partie importante de la population israélienne, c'est plus d'un million maintenant d'Arabes israéliens. Et quand vous leur posez la question en disant « Mais imaginons qu'il y ait un État palestinien. » Non, non, on est israélien, nous. Mmh. Le plus grand professeur de médecine en Israël, à 35 ans, est un arabe israélien. Voilà. Donc c'est pour ça que quand j'entends « colonisateur », je pense que les peuples qui ont lutté contre la colonisation auraient bien aimé se rappeler ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions politiques qui sont posées. Ça ne veut pas dire qu'Israël est un État parfait, qu'il n'y a pas eu... Au contraire, on peut, mais on ne peut pas justifier le terrorisme aveugle, parce que le terrorisme aveugle, c'est ça la faute de la France insoumise. N'apporte rien politiquement, n'apporte rien. Et quand ils reçoivent, comme c'est le cas en ce moment, un membre d'une organisation qui a été classée terroriste,
Salah Hamouri,
qui l'accueille, etc., c'est pas vrai.
Il a voulu tuer un rabbin.
Voilà. Salah Hamouri, le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui a maintenu l'invitation.
Rien, ils n'apportent rien. Au contraire, ils ne font pas leur rôle d'organisation de gauche éducative.
Quand Julien Drey dit avec raison que de très nombreux Arabes israéliens ne se reconnaissent pas du tout dans ces mouvements-là, mais non lorsqu'il dit que le conflit israélo-palestinien n'a pas été importé en France par ces gens-là. Parce que, désolé de vous dire, mais Mohamed Merah, il a été tué des enfants dans une école juive de Toulouse pour venger les enfants de Palestine. Et moi, dans mon affaire Knoll, celui qui a massacré la vieille dame rescapée d'Auschwitz, Madame Knoll, il a agi aussi pour des motifs pro-islamistes et par rapport à la Palestine. Donc il y a une partie, malheureusement, de la jeunesse des banlieues qui a été compagnie. Mais ils n'y sont pour rien. Ce sont des victimes de l'islamo-gauchisme qui les ont chauffés à blanc. La réalité, elle est là.
Factuellement, Julien, certains quartiers.
Je maintiens qu'on n'a pas le conflit, ce n'est pas importé. On n'est pas encore dans une guerre. Maintenant, il y a effectivement des gens qui voudraient bien l'importer. Et c'est une bataille politique permanente, effectivement, contre ceux qui voudraient bien l'importer et qui font tout pour ça. Et il y a eu, effectivement, ces derniers temps, des crimes antisémites. Et il y a une société française qui est hésitante sur cette question-là. L'affaire Sarah Halimi, je rappelle, qui est un crime antisémite, a été
couverts par les autorités politiques, parce qu'elles avaient fait des fautes. Voilà. Et il y a un nombre d'agressions antisémites aujourd'hui, alors il y a moins en termes de violence, mais qui continue à être insupportable. Mais je pense que la France, pour l'instant, elle peut être prise en otage à tout moment par ça, mais il y a encore des dits qui tiennent. Voilà.
Un dernier mot, Gilles William, pour conclure sur ce douloureux dossier, bien évidemment.
Écoutez, non, pardon de vous dire, moi je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les Juifs français ne sont plus en sécurité en France. Les Juifs français, proportionnellement, sont les personnes les plus en danger. Dieu sait si les chrétiens ne sont pas loin, eux aussi, par rapport à l'islamisme. Mais je crois que cette bataille-là, malheureusement, elle a été perdue. Il y a toute une partie de la jeunesse des banlieues qui est dans la détestation des Juifs et d'Israël. La réalité, elle est là.
Et je vous propose de revenir à présent, justement.
Si je m'excuse, mais dans la pratique, ce que j'ai vu, c'est plus nuancé, plus compliqué. Voilà, alors il y a, c'est toujours le même problème, c'est d'apprécier la part de ce que sont tel ou tel groupe.
Ah oui, je ne dis pas que c'est une majorité, je ne prétends pas que c'est une majorité.
Tel groupe, moi j'en ai connu des groupes qui étaient des comités particuliers, mais la masse de la population, elle voulait au contraire essayer de se tenir à l'écart de tout ça. Mais c'est vrai que, à force, une absence de clarté politique dans la lecture des événements, voilà. Parce que c'est ça le problème qui est posé. C'est vraiment, c'est évident que s'il n'y a pas de clarté politique de ceux qui dirigent le pays ou de ceux qui sont candidats à le diriger, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça pose problème.
Je vais même aller plus loin. Même au plan international, s'il n'y avait pas eu en Occident une extrême gauche qui était plus palestinienne que les Palestiniens eux-mêmes, alors peut-être que les Palestiniens auraient mis peut-être un peu de l'eau dans leur vin. Il y a une dialectique perverse, justement, par rapport à ce conflit israélo-palestinien.
Et on verra, justement, d'ici là, s'il y a des réactions du côté de l'extrême-gauche.
Il y a des États aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des États qui jouent. Je veux dire, le Qatar finance le Hamas. Bon, le Qatar qui a fait la Coupe du monde de football, etc., il finance quand même le Hamas, quoi. Et c'est même son principal, pas le bailleur de fonds.
Toujours lié à l'islam, à présent, je vous propose de revenir sur le retour en France de ces femmes djihadistes parties en Syrie. 15 sont rentrées cette semaine avec 32 enfants. Alors après ceux du mois de juillet et du mois d'octobre, des retours qui confirment la fin de la politique du cas par cas. C'est ce qu'opérait le Quai d'Orsay depuis 2019. Sauf que, sous couvert d'anonymat, des enquêteurs et des magistrats se sont confiés à nos confrères du Figaro. Et voilà ce qu'ils disent. Celles qui rentrent le font parce qu'elles ne voient pas comment continuer leur combat sur zone. Pour autant, elles demeurent profondément ancrées dans les radicalités terroristes et islamistes. Nous commençons à disposer de suffisamment de matériaux pour reconstituer les parcours. On ne compte plus les dossiers où figurent ces combattantes posant avec Kalachnikov et bébé dans les bras. Julien Drey, selon vous, est-ce qu'il y a une raison morale de faire revenir ces femmes en France ou pas ?
Il n'y a aucune raison morale. Il y a à un moment donné le fait que certaines sont des citoyennes françaises. Au départ, elles étaient des citoyennes françaises. Et donc, ceux qui les détiennent disent à un moment donné, vous êtes bien gentils, mais on en fait quoi, nous ?
Voilà. Et parce qu'elles sont françaises, on se doit de les accueillir.
À partir du moment où vous avez la responsabilité de vos citoyens, vous êtes confronté à ce dilemme. Alors j'ai lu un certain nombre de déclarations de responsables politiques qui disent mais elles ont qu'à rester là-bas. Nous on n'en veut pas. Voilà. Je pense notamment, je crois que Ségolène Royal a fait cette déclaration. Le problème c'est que ceux qui les gardent, notamment les Kurdes, disent vous êtes bien gentils, mais nous qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Dans le même temps, vous avez retiré votre soutien. Et vous comptez chichement le soutien que vous nous donnez. Donc il faudrait savoir ce que vous voulez.
Et en même temps, est-ce que Gilles William, Paris a le choix parce qu'il y a eu la condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est en septembre dernier. Ça veut dire qu'il y a une pression aussi exercée sur la France et qu'elle est plus souveraine sur cette question.
Vous avez posé la question morale. Alors moi, sur le plan moral, je trouve particulièrement immoral d'exposer la population française à des terroristes, parce que je vois pas, c'est des femmes, elles se sont parfois conduites de manière plus bestiale que les hommes. J'ai du mal à comprendre cette fois-ci ce sexisme un peu à l'envers. Donc sur le plan moral, je suis farouchement opposé à ce qu'elles reviennent. Je ne les tiens pas comme des compatriotes, et par conséquent, tout ce qu'a dit Julien Drey est vrai, parfaitement vrai, mais sur la question morale, j'y suis opposé et les responsables sécuritaires ont dit ce qu'il fallait en dire. Mais par contre, votre question est malheureusement parfaitement légitime. Nous ne sommes plus maîtres de notre destinée. Si la France a finalement abandonné la politique du cas par cas, c'est parce que, notamment, l'Europe, les juridictions européennes, qui sont beaucoup plus préoccupées par le sort de ces gens-là que par le sort des Européens. On a condamné la France lorsqu'elle a décidé de renvoyer en Algérie quelqu'un qui n'était même pas français, qui était algérien et terroriste algérien, parce que ce monsieur courait, paraît-il, des risques en Algérie. Donc preuve est faite qu'ils sont plus touchés par le risque que court un terroriste chez lui que par le risque que courent les Français chez eux. Donc il faut comprendre dans quelle perversion intellectuelle on nous fait vivre constamment. Mais si elle pouvait effectivement rester là où elle est, je n'en serais que évidemment plus satisfait.
Non, mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est un enchaînement.
Ouais.
C'est-à-dire que nous avons été amenés à aider, je dirais, les Kurdes, les combattants kurdes, pour des raisons à la fois diplomatiques, stratégiques, tout ce que vous voulez. On a progressivement abandonné les combattants kurdes, mais on leur a laissé, je dirais, ça. Voilà, c'est-à-dire, je crois que c'est plusieurs milliers de détenus qui sont, voilà, et vous savez comme moi que ce centre de rétention, de détention plutôt, est sous la pression des djihadistes qui, à tout moment, se préparent. Ils ont déjà attaqué et l'a libéré. Et les combattants kurdes disent, nous, on n'en peut plus, quoi. Alors, si vous voulez qu'on les garde, c'est un point de vue, il fallait nous aider vraiment. C'est-à-dire, il fallait rester là, il fallait nous donner des moyens, voilà, mais vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre.
Et on verra.
Et la France a une position très ambiguë. Maintenant, il y a une chose qui est vraie, et je pense qu'il faut prendre au sérieux ce que disent les magistrats, c'est que ces gens-là savent très bien s'adapter dans les failles du système, et ils ont souvent d'ailleurs des dispositifs juridiques de gens qui se présentent comme des grands défenseurs, tout ce que vous voulez, etc., qui sont d'ailleurs souvent bien rémunérés par des organisations de solidarité, parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est pas simplement pour la noble cause, hein, et ils passent dans les failles du système. Et c'est vrai que l'Europe est sous l'influence beaucoup des pays scandinaves, a tendance à avoir une sorte de condescendance à l'égard de tous ces gens-là, disant oui, mais ils ont tellement vécu de choses terribles et tout. Par ailleurs, c'est des gens qui sont partis là-bas. Hein. C'est des gens qui sont partis là-bas. Donc ils savaient ce qu'ils faisaient. Et il faut voir, c'est vrai, quand vous discutez avec les combattants et les combattants kurdes, quand vous discutez avec, ils vous disent que c'était pas les plus gentils, hein, ces gens-là. Hein.
Il y a la question aussi qui se pose des enfants, parce que les enfants, Gilles William, on les a toujours considérés comme des victimes. Or, il y a des alertes. On dit, attention, ils ont été radicalisés, ça va être très compliqué de les déradicaliser. Et plus que des victimes, ces enfants peuvent aussi être un danger pour l'avenir.
Je parlais tout à l'heure de l'éducation à la haine. Je ne vois pas pourquoi ces mômes seraient effectivement pas perméables à l'idéologie de haine que l'on leur a instillé dans leur biberon. Donc, alors, évidemment, on ne peut pas traiter de la même manière un enfant de 6 ans qu'un adolescent de 17 ans. Ça n'est pas la même chose. Pour moi, un adolescent de 17 ans qui a été élevé comme ça, c'est une bombe en puissance. Un petit môme, c'est quand même tout à fait différent. Mais là aussi, je crois qu'il faut voir les choses au cas par cas.
Mais il faut être honnête sur les enfants, autant sur les mamans. Mais sur les enfants, on a un dispositif qui est plutôt pas mal en France, c'est-à-dire que on enquête avant, on les place dans un milieu familial, on enquête sur le milieu familial, il y a un suivi sérieux du milieu familial pour vérifier que les choses sont bien prises en charge, et pour l'instant, de ce que me disent les acteurs, ce dispositif-là fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que c'est un processus qui vise de fait à faire que l'enfant il change de milieu, que les familles soient aidées, elles sont d'ailleurs souvent soutenues pour ça, pour couper. Maintenant, la vie est malheureusement assez aussi à son côté tortueux. Vous n'êtes pas à l'abri qu'à un moment donné, quand ils vont devenir des adolescents, ils retrouvent une forme de révolte parce que leur mère ou des choses comme ça.
Bon. Et effectivement, il faudra suivre avec intérêt et attention l'avenir
de ces
enfants.
Vous avez un problème supplémentaire,
notamment.
C'est qu'une partie de ces mères, pour l'instant, elles sont en prison. Et
ça,
en prison, elles ne se comportent pas comme des gens qui se déradicalisent. Hein.
Allez, on va marquer une très courte pause. Restez avec nous. Est-ce que le Parti Socialiste a un renouveau en perspective? On va en parler. Fumée blanche, OPS dans un instant. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite.
Il
De retour sur le plateau de Ça se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey, Gilles, William Golnadel. Dans un instant, la fumée blanche au PS. Le parti a entériné la victoire d'Olivier Faure après plusieurs jours de crise. Alors, est-ce que c'est un renouveau en perspective? On en parle dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot.
Le temps presse pour le climat, on n'y arrivera pas, dit Emmanuel Macron. Si elle veut atteindre ses objectifs en 2030, la France doit doubler son taux d'effort pour réduire ses émissions de carbone par rapport à ces 5 dernières années. Concrètement, il faudrait, entre maintenant et 2030, baisser les émissions de CO2 de 140 millions de tonnes. Nouvelle attaque à Jérusalem-Est. Un homme de 47 ans et son fils de 23 ans ont été blessés par balle ce matin par un Palestinien de 13 ans. L'adolescent a été neutralisé et blessé par des passants. Cette attaque survient au lendemain d'une fusillade qui a fait 7 morts près d'une synagogue. Depuis, les appels à la retenue se multiplient en provenance de l'étranger. 4,5 tonnes de cocaïne saisies au large des îles Canaries. La police espagnole les a interceptées à bord d'un cargo togolais qui venait d'Amérique latine. Il transportait du bétail à destination des pays du Moyen-Orient et était surveillé depuis plus de 2 ans. Les 28 membres de l'équipage de 9 nationalités différentes ont été arrêtés.
Merci Isabelle. Prochain point à 20h. Habemus papam au Parti Socialiste. C'est ce que semblait dire Olivier Faure dans un tweet. Regardez cet après-midi. La fumée blanche, toujours après la crise. Les délégués du Congrès Socialiste à Marseille ont entériné cet après-midi sa victoire, celle d'Olivier Faure, comme premier secrétaire du PS. C'est grâce à un accord avec son rival Nicolas Mayer-Rossignol. Et un accord qui met un terme à plusieurs jours de contestation et de fracture interne. Nicolas Mayer-Rossignol, sceptique, on le rappelle, vis-à-vis de l'alliance de gauche NUPES, deviendra lui premier secrétaire délégué. Et ça, c'est un titre qui a été créé pour l'occasion. D'ailleurs, il sera aux côtés de la maire de Nantes. La maire de Nantes qui est pro-Faure, Johanna Roland. On va écouter Olivier Faure.
Il y a une majorité qui est très convergente. Il y a une minorité qui ne partagent pas avec nous la vision stratégique, mais qui en revanche partagent sur le fond, sur les propositions, sur les mesures que nous voulons mettre en place, qui est elle aussi très convergente. Donc voilà, les socialistes sont quand même heureusement dans un parti qui les rassemble depuis longtemps, dans lequel ils se sentent bien. On a passé de longues semaines à se parler à nous-mêmes. Il est maintenant largement temps de parler à celles et ceux qui n'ont que nous au fond pour les défendre. Alors quand je dis nous, nous, l'ensemble de la gauche et les écologistes. Et donc, nous devons retrouver le sens du combat et le sens du combat qu'on porte.
Alors, Julien Drey, est-ce que vous pourriez reprendre ces mots du maire de Marseille, Benoît Payan, qui a dit cet après-midi « Cette maison, vous venez une fois de plus de la sauver ».
Non. Non. Je crois que le Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le parti que j'ai fréquenté, animé, dirigé pendant plus de 40 ans. Je pense qu'il est plus que l'ombre de lui-même. Et ce qui s'est passé là est révélateur. Je veux dire, on est monté au cocotier, on s'est traité de tous les noms, et finalement on se partage les responsabilités, tout en sachant pas sur quelle ligne politique on va se partager ses responsabilités, parce que vous allez avoir un premier secrétaire et un premier secrétaire délégué qui, sur le fond, je prends un exemple, vous allez inviter le premier secrétaire délégué, vous allez inviter le premier secrétaire.
Vraie question.
Voilà. Et quand le premier secrétaire délégué va venir, il va défendre quelle orientation politique par rapport au premier secrétaire en titre. Donc tout ça est un rafistolage. Mais c'est un rafistolage parce que derrière, il y a encore un petit quelque chose. Il y a des municipalités, il y a des élus, il y a une trésorerie aussi. Voilà. Donc, mais pour que la gauche retrouve un sens dans ce pays, qu'elle soit à nouveau en capacité, je dirais, de candidater aux plus hautes fonctions, il faudra sortir de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Ça veut dire que dans les semaines et les mois à venir, je pense qu'il faudra reprendre le chemin qu'avait emprunté François Mitterrand en 1971. Il faut faire des états généraux. Parce que vous savez, là, ils étaient 1000. Mais il y a des dizaines de milliers de militants et de responsables socialistes qui sont comme moi, qui sont à l'extérieur. D'ailleurs, souvent, on s'échange et on se lamente de ce qu'on voit et de ce qu'on constate. Et c'est tous ces gens-là qu'il faut remettre en mouvement. C'est tout ce peuple de gauche qui est orphelin. Et moi, je pense qu'ils ont eu un mauvais congrès parce que le débat n'était pas sur la NUPES ou non. Le débat, c'était qu'est-ce que nous, socialistes, nous portons comme message? Qu'est-ce que nous avons? Comment nous nous remettons au travail pour reconstruire un projet socialiste? Ça, ça aurait été un congrès sérieux.
Julien n'est pas très enthousiasmé hein, par cet accord au sein du PS. Est-ce que vous voyez un PS qui pourrait rassembler désormais? Comment vous observez ça? Je vous voyais sourire.
Il faudrait avoir un drôle de morale pour un socialiste ou un ancien socialiste, je ne sais pas comment il se situe maintenant, mais pour être enthousiaste. C'est une... Franchement, c'est plutôt une comédie, une tragicomédie, je ne sais pas comment la nommer. Julien Dray a raison, il y a encore quelques actifs au sein du Parti Socialiste. Il y a effectivement des municipalités, il y a une trésorerie, mais comme une société en liquidation de biens, si vous voulez, avec des responsables légaux qu'on ne connaît pas vraiment. Oui, il y a encore un peu d'actifs à se partager, mais la réalité... C'est que, alors même que Julien a raison, il y a de la place pour une gauche démocratique, sociale en France. Mais dès l'instant où M. Faure a vendu son âme pour sauver son siège à M. Mélenchon, il est devenu le vassal de M. Mélenchon. Étant vassalisé par M. Mélenchon, pardon, la personne qui va aujourd'hui voter Parti Socialiste, ce sont des gens d'extrême gauche. Je ne vois pas qui a le profil maintenant pour voter PS, à part quelqu'un qui ne peut pas voter Mélenchon, parce que justement, Mélenchon a donné tel fief ou tel fief à son vassal. Voilà,
c'est du comme coup, ça que ça
c'est un Oli... peu, c'est comique.
Le problème, c'est qu'Olivier Faure, c'est Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui.
Il a beaucoup changé, moi je le connais bien. Si vous voulez, je l'ai connu quand j'étais et que j'animais la gauche du Parti Socialiste, c'était pas un radical, hein. Loin de là. Était plus proche de ce qu'on appelait à l'époque les rocardiens que de la gauche socialiste que j'animais. Donc je l'ai vu beaucoup changer. Je vous signale que quand le gouvernement de M. Ayrault se met en place, Olivier Faure est au cœur de la machine. Au cœur de la machine. Ça, souvent, tout ça est oublié. Il a un bureau à Matignon et il le suit, ce qui pour moi ont été les nombreuses erreurs du début du quinquennat de François Hollande. Je pense notamment à la question européenne ou à la question fiscale. Bon, voilà. Donc après, d'un coup, je le vois maintenant devenir... et je me dis, où est la sincérité? Je veux dire, ouais. C'est pas le dernier. J'en ai eu des congrès du Parti Socialiste sur la retraite à 60 ans. J'avais jamais entendu dire Olivier Faure qu'il était pour la retraite à 60 ans. Et quand nous, on défendait avec d'autres des motions qui étaient plus... Au contraire, ils s'acharnaient contre nous en disant qu'on était irréaliste et tout. Bon, alors peut-être, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Peut-être que désormais, il s'est converti et que, ce que je peux comprendre, la fréquentation de Jean-Luc Mélenchon, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, pèse maintenant sur sa conscience politique. C'est possible. Mais pour moi, c'est ça la question qui est posée. Moi, je n'ai rien contre la NUPES, la nécessité à un moment donné de faire l'unité. Moi, ce que je veux, en tous les cas, ce que je voudrais, ce que je veux, c'était une exigence. Ce que je voudrais, c'est qu'on retrouve un Parti Socialiste digne de ce qu'il a été quand François Mitterrand le dirigeait, quand Lionel Jospin le dirigeait, et même quand François Hollande l'a dirigé, même après s'il y a des tas de choses à dire sur l'exercice du pouvoir. Mais là, comment on peut faire un congrès en pleine réforme des retraites où il n'y a pas un projet défendu par les socialistes? Il y a un vrai projet.
En tout cas, vous le disiez, vous n'avez rien contre la NUPES, contrairement à Gérald Darmanin. Il s'est exprimé dans les colonnes du Parisien cet après-midi. Et voyez ce qu'il dit à propos de l'union de la gauche. La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. Il a fustigé, je le cite, le gauchisme paresse. Et Bobo, on le sait, dans ce contexte de réforme des retraites, une réforme des retraites très contestée, notamment par la NUPES, qui a déposé d'ailleurs des milliers d'amendements. Vous rejoignez ces propos, Gilles William? La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays?
Oui, bah oui. Enfin, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est dans l'ADN de la gauche extrême que de faire en sorte que l'ordre dans le pays ne tienne pas. Et puis, on ne sait jamais si ça veut vraiment sourire. Comme ces gens-là sont très à l'aise dans la rue, avec leurs auxiliaires, Black Bloc, Antifa et compagnie, il peut y avoir ça peut sourire, il peut y avoir le grand soir. Donc oui, la stratégie, effectivement, de radicalité, mais elle n'est pas nouvelle. Je veux dire, pardon de le dire, mais monsieur Darmanin ne dégouvre rien. C'est au cœur même de la pensée d'extrême-gauche. Alors c'est vrai, avec des thématiques... nouvelle. L'extrême gauche, c'est wokisé. Alors donc oui, maintenant, avant c'était le travail un petit peu à la manière des ouvriers vantés par Staline. Et maintenant, au contraire, c'est le droit à la paresse, à l'indolence, etc.
tout est bon pour avoir le pouvoir. Mais enfin, ils ne l'auront pas dans les urnes.
Hein. Julien Drey, pourquoi il s'en prend à la NUPES aujourd'hui, d'ailleurs, Gérald Darmanin ?
C'est vieux comme le monde, cette histoire. Le problème qu'il a, ce n'est pas avec la NUPES, c'est avec le pays. Moi, je regarde les sondages. Les sondages montrent que le pays, de semaine en semaine d'ailleurs, est de plus en plus contre cette réforme. Et je regarde les débats. Vous voyez, pour une fois, je vais faire des compliments. Moi, j'ai regardé le débat avec M. Olivier Véran et il y avait Mathilde Panot en face. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas photo sur qui savait quoi là-dessus. Bon, et là, elle a été... Pour une fois, elle n'a pas fait dans le bruit et la fureur. Elle avait bossé ses dossiers, elle avait de l'argumentation. Et je peux dire qu'elle a été percutante. Je crois d'ailleurs qu'à l'Élysée, on n'était pas très content de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, le problème qu'a M. Darmanin, c'est avec le pays et avec ceux qui ne sont pas d'accord avec cette réforme. Donc, c'est toujours facile de maintenant tendre la relation, de faire diversion en essayant
la théorie
de
du bouc émissaire.
Voilà, en essayant de provoquer la NUPES, en disant c'est pas bien, etc. Mais le problème, c'est pas la NUPES qui a inventé la réforme des retraites, c'est lui. Son gouvernement, plutôt.
En tous les cas, il y en a, pendant cette réforme des retraites, qui ont décidé de faire des actions. Ils appellent ça des actions Robin des Bois. La CGT, plusieurs établissements publics ont été placés en gratuité d'électricité, gratuité de gaz. Les hôpitaux, les cliniques, des patinoires, des piscines municipales, des centres sportifs publics, des associations d'intérêt public. On le voit à l'antenne, des HLM, éclairage public. Tarifs réduits pour les petits commerces, les artisans, les petites entreprises, rétablissement des usagers coupés en électricité ou gaz malgré la trêve hivernale. Ce n'est que le début, hein, Gilles Williams, selon le syndicat, qui appelle encore à élargir le mouvement. C'est face, bien évidemment, pour s'opposer à la réforme des retraites. On le précise, des actions qui sont illégales et pourtant, on a le sentiment qu'elles sont faites en toute impunité.
Ben oui, c'est le cas. C'est le cas. C'est que je vais vous faire une convenance. Moi, je suis assez attaché à la légalité, vous voyez. Pas uniquement par légalisme, mais c'est aussi parce que la loi, c'est le rempart contre la barbarie. Hein. Voilà. Donc, or là, on voit bien qu'il se croit tout permis. Il se croit tout permis d'abord parce qu'il y a une radicalisation de leur mouvement. Et eux-mêmes, d'ailleurs, s'ils ne se radicalisaient pas, il y a fort à parier qu'ils seraient débordés par leurs radicaux. Ça explique d'ailleurs assez largement la position même de la CFDT. Ensuite, parce que le gouvernement est faible. Ce gouvernement est faible. Donc, il a peur forcément, il a peur de tout. Il se garderait bien, justement, de réquisitionner tout de suite, etc. Il a peur. Ben oui, mais ça se comprend. Donc, si vous voulez... Et puis j'oubliais quelque chose qui, pour moi, mérite peut-être encore plus que le reste... C'est la décérébration du peuple français. Peu à peu, on a habitué le peuple français à voir des syndicats, non pas seulement pourtant peu représentatifs et peu intéressés par l'économie, mais peu à peu, on les a habitués à avoir des syndicats donc idéologisés. Avoir des syndicats qui utilisent indûment le monopole du service public pour faire des grèves, ou même bien pire, des blocages totalement illégaux. Et enfin, alors là, chaque fois, si vous voulez, on va plus vers les extrêmes, qui maintenant se permettent non seulement de bloquer les raffineries, mais également de couper la lumière à leurs opposants récalcitrants. Là, on a encore franchi un cap supplémentaire, et les Français, qu'on présente comme un peuple effectivement assez qui a mauvais caractère, acceptent les choses tranquillement, d'une certaine manière. J'ai oublié évidemment les maires, les initiatives des mairies, qui, alors je ne sais, M. Drey m'a expliqué hier que ça n'était pas totalement illégal. Il faudrait consulter un avocat, mais ceci posé, j'ai du mal à comprendre comment un maire peut disposer des volontés de ceux qu'il serve et qui ne sont pas tous défavorables par essence à la réforme. Donc quand j'additionne tout cela, vous avez effectivement en face de vous quelqu'un d'assez excédé.
Alors du coup, est-ce que c'est pas finalement la CGT qui bordélise, pour reprendre les termes de Gérald Darmanin, le pays plutôt que la NUPES ?
La question qui est posée, parce que vous avez remarqué, l'intervention de Gilles Williams, elle est sur tous les effets secondaires, mais elle n'est pas sur le fond du problème.
On me pose la question sur les effets secondaires.
C'était quelqu'un de discipliné. C'est une qualité. La question principale, c'est d'abord l'existence d'une réforme qui est rejetée par une grande majorité du pays.
Oui, mais est-ce que ça justifie ces actions de la CGT?
Est-ce que ça justifie que le gouvernement... Voilà, vous savez, je ne céderai pas là-dessus, personnellement. Parce que je vois bien comment on va essayer d'obtenir, de faire diversion avec tel ou tel comportement pour éviter d'avoir le débat sur le fond. Le débat sur le fond, c'est que cette réforme est une mauvaise réforme. Voilà. Et quand tous les syndicats, qui soi-disant ne sont pas représentatifs, mais je ferai remarquer que quand ils appellent à la grève, là, sur cette affaire-là, bah, il y a des milliers de gens qui descendent dans la rue. Ça veut dire quand même que les gens leur font un peu confiance. Voilà. Parce que le rapport au syndicat en France, il est différent dans d'autres pays. L'adhésion au syndicat, elle est faible, mais le fait que quand même on a besoin des syndicats et qu'on écoute ce qu'ils disent, et quand il y a besoin, ben on s'en sert, on les instrumentalise pour faire passer un message, c'est aussi une réalité. C'est ça qui fait la difficulté. Et quand vous avez des syndicats qui, en plus, moi je veux bien qu'on va maintenant mettre en avant les radicaux de la CGT, etc. Mais excusez-moi, il y avait des syndicats qui faisaient des propositions, on les avait même pas écoutés. Vous avez entendu comme moi ce qu'a dit Monsieur Berger. Vous avez entendu comme moi ce qu'a dit Force Ouvrière. Voilà. Donc qu'est-ce que joue le gouvernement? Le gouvernement, il joue effectivement maintenant à passer en force en essayant de dramatiser, en essayant d'instrumentaliser quelques comportements qui effectivement sont des comportements minoritaires qu'on connaît. Mais la question qui est posée, d'ailleurs je pense que les organisations syndicales vont en débattre, c'est il faut faire attention à une chose, c'est justement le piège est là. Donc il faut garder le caractère massif, unitaire et consensuel de la bataille.
Gilles William, pour clore sur ce dossier, Julien Drey nous dit que c'est la faute du gouvernement, finalement, puisqu'il n'écoute pas les syndicats, et on se focalise sur ces actions.
Écoutez, je réponds à votre question. Pauvre gouvernement qui a décédé avant, pour rien d'ailleurs, sur la mesure, il est passé de 65 ans à 64 ans, ça n'a servi de rien. Il pourrait décider quoi que ce soit, capituler en race campagne, mais en disant « je continue la réforme sur la retraite que », que ça ne passerait pas encore. Il m'inspire, vous savez, une estime très bornée, ce gouvernement. Mais il
n'en... C'est quoi une estime très bornée?
Parce que, c'est-à-dire limité, au sens limité.
Ah, d'accord.
Au sens limité du terme, pardon.
Donc vous n'avez pas d'estime pour ce qu'il est en train de faire?
De manière générale, ce gouvernement m'inspire une sympathie. Enfin,
Une sympathie ou pas?
J'ai ça
pas
s'entend. Enfin, écoutez, je ne suis pas un macroniste, ni de la première heure, ni de la dernière heure.
Non, mais là, en l'occurrence, vous êtes plutôt d'accord avec lui sur la réforme des retraites.
En l'occurrence, je fais...
Donc vous êtes contre la majorité de nos Français?
En l'occurrence, je fais partie des 30%.
Non, pas 30. Maintenant, on est quasiment moins.
Eh ben, écoute,
c'est pas grave.
Le club devient de plus en plus privé. Et je vous dis franchement...
Mais c'est pas un privilège. Hein.
Nonobstant ce que je pense, malgré tout, monsieur, le droit de grève, il existe, dès l'instant, encore une fois, où il n'est pas excessif. Et le droit de manifestation, il existe. Bien, si, en raison de cela... Le gouvernement croit devoir capituler. Je vais pas crier au charron. Par contre, je n'accepte pas les méthodes. Posiez la question sur les méthodes. Je les trouve tout à fait scandaleuses.
Non, mais le problème qui est posé, c'est que le gouvernement avance avec une réforme qui n'est pas nécessaire pour l'instant, quoi qu'il en dise. Et par contre, il y a d'autres chantiers en France. Et c'est pour ça qu'il y a de la colère dans le pays. C'est qu'il y a d'autres choses. Moi, je pense que j'aimerais bien avoir un gouvernement qui s'attaque à remettre l'école sur ses jambes. J'aimerais bien avoir un gouvernement qui remette en place un service public de qualité de la santé. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas contre les réformes, parce qu'on va nous dire, ça y est, ce pays est bloqué, personne ne... Si, mais je voudrais des réformes qui soient efficaces et utiles, parce que je pense que ce pays... est paralysé par une multitude de procédures, de contrôles tatillons, de chasse aux petits patrons qui n'ont pas rempli leurs documents comme il fallait et à qui on va casser les pieds, qui vont recevoir, etc. Et que toutes ces initiatives-là, elles sont bridées. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on décide une vraie décentralisation. Parce que tout ce qui a été fait ces dernières années n'a fait que complexifier le millefeuille administratif. Oui, ce pays a besoin de réformer, mais pas ces réformes-là.
Faites une réforme sur l'éducation nationale déplorable qui déplaise aux syndicats et vous verrez si vous pourrez réformer.
Alors, je vais vous faire une confidence. Ouais. C'est le seul... Bon, comment vous dire ? Je pense qu'on peut réformer l'éducation nationale. Et si vous voulez, on fait un débat. Et je suis à peu près certain qu'après, vous verrez qu'il y aura presque un consensus.
Mais je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis simplement que vous n'arriverez pas à convaincre les syndicats.
Si, parce que je pense que les enseignants aujourd'hui sont malheureux. Ouais. Ils sont malheureux de la manière dont les choses se passent.
Les principaux responsables.
Non. Les principaux responsables, c'est ceux qui ont fait n'importe quoi sur les programmes, sur les horaires, qui ont envoyé des jeunes enseignants au charbon sans les former comme il fallait. Non.
Et on est parti sur la réforme des retraites. Et
la gauche a aussi ses responsabilités.
Je vous propose d'arrêter ce débat sur les enseignants et de le reprendre, pourquoi pas, la semaine prochaine. En tout cas, un grand merci à tous les deux.
C'est déjà fini.
Ça passe vraiment trop vite.
Ça
passe très bien. Un grand merci.
On n'a rien dit. Ça veut dire que Gilles William va revenir le samedi maintenant.
Ça serait formidable. Merci Gilles-William Golnadel. Merci Julien Drey. L'actualité continue sur CNews dans un instant. Mathieu Bock-Côté face à Bock-Côté avec Arthur de Vatrigan. Ils nous livrent leur regard sur l'actualité de la semaine. Émission orchestrée par Elliot Deval. Excellente soirée sur notre antenne. Ça se dispute à revoir sur notre site www.cnews.fr.